Les belugas sont une espèce emblématique de notre Saint-Laurent. Et Jean-Benoît Legault de la presse canadienne nous apprend ce matin que des chercheurs ont obtenu 1 million du fédéral pour, dans le fond, faire une espèce d'évaluation là, du cocktail de contaminants que l'on retrouve dans les belugas. On va aller rejoindre l'un de ces chercheurs, Jonathan Véro, professeur au département de sciences biologiques à l'UQAM. Bonjour, Jonathan Véro.
Bon après-midi, M. Drainville.
Donnez-nous un exemple du genre de contaminant que vous pourriez découvrir.
Écoutez, il y en a plusieurs contaminants qui font l'objet d'un suivi, qui ont fait l'objet d'un suivi passé, mais aussi qu'on compte évidemment suivre dans les tissus des belugas. On parle d'une foule de produits qui contaminent notre environnement et qui sont suite à la libération de produits de consommation. On retrouve entre autres des surfactants, on trouve des retardateurs de flamme, autres produits industriels, les produits pharmaceutiques, des plastifiants et j'en passe. Donc, en fait, tout ce qui nous entoure dans nos milieux de travail et dans nos ménages.
C'est quoi des surfactants?
Ce sont des produits qu'on retrouve, entre autres, dans nos fameuses poêles Teflon qui repoussent aussi bien la graisse et l'eau, qui sont très utiles pour cuisiner, évidemment.
OK. Donc, quand on lave la vaisselle, mettons, c'est le genre de produits pomper dans le système d'égout, puis éventuellement, ça va se retrouver dans le fleuve.
Effectivement, parce que la plupart des contaminants qui, en fait, contaminent le belga du Saint-Laurent proviennent des effluents municipaux, donc tout ce qu'on retrouve en amont de l'estuaire du Saint-Laurent qui viennent des grandes villes canadiennes et américaines, si on parle du bassin des Grands Lacs. Et ça provient des eaux usées principalement et des projets industriels. Donc malheureusement, ça parvient dans l'environnement essentiel du belugas du Saint-Laurent.
Alors, ils sont rendus combien, les belugas, là, maintenant? Là? C'est quoi? C'est quelques centaines, hein, notre population maintenant dans le Saint-Laurent?
La population est estimée autour de 900 individus. Et cette population-là semble décliner, et c'est ce qui a fait l'objet d'inquiétudes, là. Et c'est pour la raison pour laquelle cette population-là a été classée en voie de disparition.
Alors, alors 900, est-ce que c'est la plus basse population qu'on a jamais atteint, ou est-ce qu'on est déjà tombé plus bas que 900 espèces?
Il y a déjà des décomptes de cette population-là qui ont oscillé autour de ces chiffres-là. Le problème, c'est que malgré toutes les mesures d'atténuation du bruit, entre autres, et du trafic maritime, donc la population n'augmente pas. Elle devrait augmenter, étant donné qu'on ne la chasse plus depuis plusieurs décennies maintenant. Donc, on identifie plusieurs stresseurs environnementaux qui pourraient être la cause de ce déclin-là, dont les contaminants font partie, évidemment. Donc, on a un grand cocktail de contaminants qui parviennent dans l'estuaire du Saint-Laurent et qui remontent la chaîne alimentaire pour s'accumuler dans les tissus du belugas. Et notre hypothèse, c'est que cette pollution-là peut être en partie liée au déclin des animaux en réduisant leur santé en général sur de plusieurs façons différentes, évidemment.
Est-ce que ça affecte leur capacité à se reproduire? Est-ce que c'est ça le problème? C'est-à-dire qu'ils vont mourir intoxiqués par tous ces produits-là avant même de pouvoir se reproduire? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est carrément l'appareil reproducteur, à un moment donné, qui n'a plus la force pour assurer la pérennité de l'espèce?
Donc, pour l'instant, on ne peut pas établir de lien de causalité entre le déclin des belugas et l'exposition à des polluants. Donc, on croit évidemment que ce portrait-là est beaucoup plus complexe, hein, comme je dis, qui était multifactoriel, donc qui est un ensemble de facteurs déterminants pour la santé des belugas. Donc, on croit que certaines substances connues, chimiques, peuvent interférer avec, par exemple, la capacité immunitaire des belugas et leur reproduction est en grande partie via les hormones. Donc, il y a beaucoup de ces composés chimiques-là qui peuvent perturber ou bousiller la régulation hormonale. Évidemment, les hormones étant très importantes pour la reproduction. Donc, c'est une façon un peu indirecte d'affecter la reproduction.
Et c'est ça que vous allez découvrir, Jonathan Véro? Vous allez découvrir peut-être, c'est ce que vous cherchez, des substances chimiques qui pourraient éventuellement nous permettre de comprendre pourquoi la population diminue?
Oui, effectivement, mais on a dans ce cas-ci une situation qui est particulière, c'est que le beluga est exposé, comme je vous dis, à plusieurs contaminants. Donc, ces contaminants-là pouvant amoindrir leur santé, pouvant être liés à une baisse de reproduction. C'est certain que si on considère l'espèce en tant que telle, c'est une espèce protégée, on ne pourra pas amener cette espèce-là dans un laboratoire pour tester des substances chimiques. Donc, on est tout le temps dans des modèles probabilistiques, des facteurs de risque liés à l'exposition à des contaminants. On ne pourra pas certainement dire au termes de cette étude que telle substance cause le déclin de la population des bélugas, ça n'arrivera probablement pas. On n'est pas là encore dans notre avancement de la recherche. Donc, on se doit de construire d'autres modèles qui existent et pour lesquels on peut comparer ou faire des extrapolations. Donc, ce qu'on peut dire probablement au terme de cette étude, que c'est que certaines substances qui sont connues ou nouvelles, parce qu'on considère aussi de nouveaux contaminants dans cette étude-là, sont liées ou non à des marqueurs qui sont responsables de la synthèse, le métabolisme, le transport de certaines hormones, par exemple, pourrait être lié peut-être à la baisse de reproduction qu'on observe dans cette population.
Et en 10 secondes, est-ce qu'on a trouvé des bélugas avec du plastique dans l'estomac comme on l'a vu pour certaines baleines, très rapidement?
Jusqu'à présent, on n'en a pas trouvé, mais ça n'exclut pas la présence de microplastiques, qui sont des petits fragments de plastique de moins de 5 mm, qui vont probablement faire l'objet d'études de mon collègue Stéphane Laird de l'Université de Montréal.
Jonathan Vairaud, professeur de biologie à l'UQAM, merci.
Je vous remercie beaucoup, bon après-midi.
Bonne chance avec l'étude. Merci à vous, les auditeurs. On se reparle demain. C'est Paul qui s'en vient. Bye.